au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Lundi 25 mai, j'espère que vous avez passé une belle journée. Ça s'est amélioré au niveau météo là depuis l'heure du midi. Avec Mathieu Bélanger, analyste politique, aujourd'hui, il sera question du référendum sur l'indépendance de l'Alberta. Le Québec a-t-il les moyens des ambitions de Christine Fréchette? C'est la question qu'on se pose avec Pierre Paquette. Le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau, sera avec nous. Il sera question de la place Carl Tremblay. La construction d'une nouvelle tour de cellulaire de Rogers suscite de l'inquiétude à Lanoraie. On en parle avec une citoyenne, Cynthia Béliveau, et André Villeneuve, maire de Lanoraie. Mais tout d'abord, le financement du projet de construction d'un nouveau centre d'amitié autochtone de Lanaudière à Saint-Charles-Borromée est complété. Le projet évalué à 27 millions de dollars reçoit des appuis des gouvernements supérieurs de plus de 50 % de sa valeur. Et le reste du financement provient des partenaires municipaux du CI3S de Lanaudière et de Mécène. Et François Morin a rencontré la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière, Jennifer Brazo, ainsi que le maire de Saint-Charles-Borromée, Alexis Nantel.
Alors, Jennifer Brazo, enfin, peut-on dire?
Oui, enfin, on peut l'annoncer, puis on est arrivé à cette journée-là.
On voulait pas le dire au départ parce qu'on avait quand même, pas des craintes, mais il fallait quand même demeurer prudent parce que c'est un projet majeur. 27 millions, c'est pas rien.
Non, c'est pas rien. Puis il y avait beaucoup de partenaires à pouvoir gérer là-dedans. Alors, ça c'était beaucoup de travail à arriver aussi aujourd'hui.
Et ce qui est la beauté de la chose, c'est qu'on se rend compte que les gouvernements ont quand même délié les cordons de la bourse. Là, on finance pratiquement la moitié, sinon pas un peu plus que le projet au total.
Oui, le projet était, il y a des belles contributions de la part du gouvernement du Québec, aussi du gouvernement fédéral. Alors oui, on est bien soutenu à travers les programmes gouvernementaux.
Peut-être rappeler pour les gens qui nous écoutent là, ce qu'on retrouvera à l'intérieur du nouveau centre.
On a plusieurs différentes offres qui vont être trouvées au centre. On a une clinique médicale, on a des services en petite enfance, on a une place de CPE de 39 places réservées avec le ministère de la Famille. On a des logements transitoires aussi, 26 logements transitoires qui vont être dans la nouvelle bâtisse. Un espace de location de salle où est-ce qu'on peut avoir jusqu'à 150 personnes. Un espace culturel aussi où est-ce que le monde va pouvoir venir apprendre sur la culture autochtone puis voir des expositions d'art et autres.
La MEDEF sera au rendez-vous?
Oui, on est quand même assez choyé du fait qu'il y a beaucoup de simple monde qui veut travailler au centre. Alors, c'est sûr qu'on continue à grandir, puis il va y avoir d'autres opportunités de travailler avec nous.
L'échéancier, maintenant que tout est ficelé, on s'enligne comment?
On prévoit pour en novembre pour prendre position de la bâtisse et après tout le déménagement, de pouvoir avoir une ouverture en janvier.
Merci.
Merci.
Alexis Nantel, c'est quand même majeur. D'abord, cet investissement-là sur le territoire, et en plus, c'était plus que nécessaire.
Oui, puis je suis très content que ce soit d'abord chez nous, évidemment, ce centre d'amitié autochtone, mais je pense que ça répond à un besoin qui est en croissance. Évidemment, on le sait, les villes sont en croissance actuellement, la population, également la communauté autochtone aussi sur le territoire en milieu urbain. Donc, ça nécessite plus de services, puis je pense que l'on va être en mesure de les offrir, puis de mieux les accompagner surtout.
Et d'autant plus qu'on parle beaucoup de réconciliation, et ça, c'est plus qu'un symbole, là, c'est quelque chose qui fait avancer là, le dossier.
Ouais, et encore une fois, je suis content et j'espère que les Charlois vont en profiter parce que, évidemment, oui, on va donner plus de services à la communauté autochtone, mais aussi, il y a une portion culturelle là-dedans, il y a une portion d'échange, de partage, et j'espère que les Charlois vont se rendre, vont aller visiter, vont aller comprendre, vont aller parler avec la communauté, puis ça ne peut faire que plus de bien.
Parce que justement, vous avez lancé un message à cet effet-là, là, tantôt, lors des allocutions. C'est important qu'effectivement, ça continue, que ça ne soit pas qu'un symbole.
Non, exactement. Je veux que ça se partage dans le quotidien. Pour nous, à la Ville, c'est très important, le partage, la notion de transfert, de connaissances entre les différentes générations, avec les aînés, avec les plus jeunes. Mais il y a aussi ce partage-là avec les communautés qui sont maintenant chez nous, de l'immigration économique, de la communauté autochtone. Puis je pense qu'il faut continuer que ça se fasse. Puis le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière va être un endroit pour le faire.
Et cette implantation-là vient également le confirmer, le je dirais pas le virage, mais en tout cas, une priorité que s'est donnée Saint-Charles-Borromée, toute la région, avec le 6 de la Naudière, c'est qu'on a un pôle en santé et services sociaux.
Oui, et ça, donc, ça contribue à une offre augmentée pour la santé et les services sociaux. On se positionne comme un pôle majeur de santé, puis je pense qu'on a encore d'autres projets, on veut continuer à le faire. Puis des fois, hein, ne serait-ce que des professionnels qui viennent se greffer autour de ces institutions-là, je pense que la population à Saint-Charles est gâtée, mais aussi dans la MRC.
On rentrera pas dans le détail parce qu'il y a une annonce à venir, mais on parle de tourisme autochtone.
Oui, il y a des annonces qui s'en viennent à Saint-Charles-Borromée en termes de tourisme autochtone. Déjà, on a commencé avec mon équipe à créer des ponts, entre autres avec le comité interculturel. Puis on va intégrer beaucoup de choses dans la vie quotidienne, justement, des Charlois. Non seulement avec le centre autochtone, mais aussi du côté culturel chez nous.
Merci. Bien, c'est une très bonne nouvelle. C'était le maire de Saint-Charles-Borromée, Alexis Nantel. On a entendu auparavant la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de la Naudière, Jennifer Brazeau. Le financement du projet de construction là qui est complété, projet évalué à 27 millions de dollars et qui doit voir le jour du côté de Saint-Charles-Borromée au mois de novembre. À venir, tiens, dans les prochaines minutes, on va parler de la construction d'une nouvelle tour de cellulaire Rogers qui suscite l'inquiétude là, du côté de Lanoraie.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Mettez-nous au défi, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Rogue S 2026 à traction intégrale en location 60 mois à partir de seulement 99 $ plus taxes par semaine sans aucun comptant initial chez Joliette Nissan.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, le rôti de bas de palette de bœuf est offert à 6,75 la livre ou 14,88 le kilo. Puis les cerises sont à 2,97 la livre ou 6,55 le kilo. Le meilleur coup de l'été, c'est Super C. Valide jusqu'au 27 mai en magasin et en ligne. Détails au superc.ca.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte pointe, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Entrepreneurs et contracteurs, Fenêtrage Saint-Ambroise vous attend pour ses journées portes ouvertes en collaboration avec Fenplast, votre destination de choix pour les portes et fenêtres au meilleur rapport qualité-prix. Le vendredi 5 juin, de 8h à 17h, venez discuter entre pros avec nos nombreux fournisseurs et découvrir nos nouveautés, dont la fenêtre Premia de Fenplast. Dîner barbecue, rafraîchissement en promotion et prix de présence. Et le lendemain, tout le monde est invité à la fête pour explorer notre centre de liquidation et découvrir notre nouvelle salle de montre. Les 5 et 6 juin, rendez-vous chez Fenêtrage Saint-Ambroise, 950 route 343 à Saint-Ambroise de Kildare.
CFNG. La Naudière PM. Communication.
16h14, les travaux de construction entrepris vendredi là, d'une tour de télécommunication de la compagnie Rogers suscitent de l'inquiétude chez des résidents d'un nouveau quartier de Lanoraie. Notre collègue Régent Turgeon a eu l'occasion de rencontrer Cynthia Béliveau. C'est une citoyenne de Lanoraie, jeune mère de famille qui est à l'origine d'une pétition qu'elle a fait circuler pour dénoncer le manque de transparence dans ce dossier-là. On écoute l'entretien.
Madame Béliveau, il y a un enjeu important. Lanoraie, par les temps qui courent, la construction d'un pylône de télécommunication de la compagnie Rogers, ça vous interpelle, il y a une problématique là, selon vous?
Oui, exactement, parce que le projet a été mis en place en 2022. En 2022, notre quartier n'était pas encore bâti. C'est vrai. Puis, dans le fond, ils ont décidé quand même d'effectuer la construction cette année en date de 2026, puis on n'a pas été consulté pour ça.
Et là, on doit savoir que la construction a commencé placée à quelques 300 mètres là, de votre rue.
Oui, exactement. À 300 mètres au nord de la dernière résidence, exactement.
Et là, quelle démarche avez-vous fait jusqu'à présent? On doit comprendre qu'il y a une opposition à ce projet-là. Et vous êtes derrière cette mouvement d'opposition-là.
Oui, exactement. Dans le fond, moi, j'ai mis en place il y a 2 mois une pétition. J'ai passé dans toutes les rues avoisinantes pour récolter le plus de signatures nécessaires. Puis, j'ai réussi à récolter près de 200 signatures en lien avec ça.
Vous voyez quoi comme enjeu derrière, justement, cette fameuse tour de télécommunication?
Ben, dans le fond, ça peut nuire à l'aspect visuel. Je crois qu'il y a aussi des emplacements alternatifs qui existent sur le territoire de la municipalité, notamment dans les zones du parc résidentiel. Puis, aussi des impacts là, de cadre de valeur de la vie, le paysage, la valeur des propriétés.
L'inquiétude est réelle, là.
Oui, tout à fait. Puis moi, je pense qu'en plus, le maire, quand que je suis allée déposer ma pétition au conseil de la ville, il était d'accord avec nous que le quartier avait beaucoup évolué, puis que à l'époque, dans le fond, on n'était pas où ce qu'on est rendu, puis qu'on avait le choix de valider d'autres emplacements pour la tour cellulaire.
Avez-vous l'impression d'avoir le soutien du maire Villeneuve dans ce dossier-là?
Plus ou moins, il me dit qu'il fait des démarches, mais malheureusement, je vois pas l'efficacité parce que j'ai pas eu aucun suivi de sa part autre que lors du dernier conseil où je n'étais pas du tout présente et que j'ai appris que ma pétition semblait ne pas être valide.
Et là, la fameuse pétition, bon, celle n'est pas valide à la Noraie, vous l'avez envoyée ailleurs également, on interpelle plus que les autorités municipales.
Oui, exactement. Je l'ai envoyée aussi à Mme Mélanie Joly, ministère de l'Industrie du Canada, puis à M. Marc-André Rochon, qui est directeur général de l'ISDE.
Et là, ça pourrait être quoi la suite? On va attendre des réponses de ces gens-là. On continue la mobilisation?
Oui, j'espère vraiment que le maire va stopper les travaux pour revoir l'emplacement de la tour cellulaire.
Dans le pire des scénarios, qu'est-ce qu'on fait? On va manifester, on bloque le chemin, on bloque l'accès, on perturbe les opérations tout en restant dans la légalité?
J'aimerais vraiment beaucoup ça. Malheureusement, on se cachera pas qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de travailler, donc ça va être difficile de trouver des personnes qui peuvent se mobiliser dès demain matin, mais j'aimerais vraiment beaucoup ça, oui.
À la base de tout ça, Mme Béliveau, vous avez un souci pour l'environnement puis justement votre nouveau quartier?
Oui, exactement, parce que la tour va mesurer jusqu'à 150 pieds de hauteur, pouvant aller avec une superficie de 25% de plus, donc quasiment 200 pieds sans demande de consultation ou de permis.
Est-ce qu'on en a vraiment besoin à la Noraie de cette tour-là? Parce que vous avez d'autres services cellulaires, on doit comprendre.
Ben oui, exactement. Puis en plus, c'est une tour cellulaire de Rogers, mais le réseau de Rogers va très bien à la Noraie. Le maire a mentionné, quand j'ai déposé ma pétition, que c'était une tour cellulaire LTE qu'il voulait mettre. Puis en plus, la LTE s'est rendue dépassée. On est rendu à la 5G. Donc, il ferait l'implantation d'une tour qui est même plus à la... Je cherche mon mot, là.
Dans les normes?
Oui, exactement.
Bon, il y a une inquiétude, il y a aussi de l'espoir à quelque part.
J'espère vraiment qu'on va être supporté puis qu'ils vont arrêter la construction. Là, je pense, ils ont commencé ce matin, fait qu'ils sont juste dans l'excavation, fait que je souhaite vraiment que ça va être stoppé.
Est-ce qu'on pourrait interpeller le député provincial?
On pourrait. Toutes les solutions sont bonnes.
La MRC?
La MRC aussi, effectivement. Je vais tenter de communiquer avec eux.
Hey, Madame Béliveau, bonne chance pour la suite des choses.
Merci beaucoup, monsieur.
Bon, voilà, c'était Cynthia Béliveau. C'est une résidente citoyenne, donc, de la Noraie, là, qui est à l'origine d'une pétition qu'elle fait circuler là, pour dénoncer le manque de transparence dans ce dossier-là, de cette implantation d'une tour de la compagnie de communication cellulaire Rogers. Juste un petit commentaire technique là, pour mentionner que ce soit une 4 ou une 5G, une tour, c'est la même chose, là, que ce soit du 4 ou du 5G. Et si on installe du 4G puis qu'on veut par la suite évoluer vers une technologie 5G, on va utiliser la même tour et juste changer les antennes dans la tour. Bon, il y a deux côtés à une médaille. On va donner la réplique au maire de la Noraie, André Villeneuve, qui lui s'inscrit en faux au sujet de certaines prétentions de Cynthia Béliveau. Comme il l'a affirmé à François Morin, l'administration municipale là, dans ce dossier-là a les mains liées.
Monsieur Villeneuve, donc, il y a des citoyens qui sont pas contents de la présence ou de la, des débuts, du début des travaux de construction d'une tour de télécommunication de Rogers. Il y a une pétition qui a été signée et semble-t-il remise au conseil de ville. Maintenant, où est-ce qu'on en est?
Ben, on en est à l'étape où nous, on s'est réunis, les membres du conseil, on a regardé la situation, puis on déplore vivement, puis ça, faut le dire, là, on déplore vivement la façon cavalière que Rogers a agi dans le dossier. Parce que nous, suite au dépôt de la pétition, qui en passant est valide, hein, la pétition est déposée au conseil municipal, il n'y a personne qui a dit qu'elle n'était pas valide, si ce n'est le représentant de Rogers lui-même, qui dit « refaites-en une autre ». Alors, c'est aux gens d'ici s'ils veulent en faire une autre ou pas. Là. Mais nous, le conseil municipal, une pétition, ça correspond à soit quelque chose que les gens demandent, que ce soit négatif ou positif, peu importe, on n'a pas à juger de ça. Une pétition, pour nous, elle est toujours, elle sera toujours recevable. Voici, je voulais mettre cette mise au point-là. Là. Ceci étant dit, on en est où? On en est au point où, comme je le disais précédemment, on déplore la façon cavalière de Rogers dans ce dossier. Et effectivement, en 2022, on va faire un petit historique là, pour bien situer. Là. En 2022, on a signé une entente avec Rogers pour leur permettre d'installer une tour qui est située dans une zone agricole. Donc, là où sont les étangs aérés de la municipalité, ces zones agricoles. Pourquoi on a fait ça? Parce que à l'époque, Rogers était en train de regarder une entente avec la fabrique de la Noret pour installer des antennes. Parce qu'une tour, c'est une chose, mais les antennes, c'est autre chose. Les antennes, donc, au clocher de l'église, mais c'était pas possible. Les clochers étaient déjà occupés et ils pouvaient pas supporter, ben pas les clochers, mais le clocher, ils pouvaient pas supporter d'antennes supplémentaires. Et là, Rogers avait jeté son dévolu sur la Pinède. Pour ceux qui ne savent pas, c'est où la Pinède? C'est à côté du cimetière, en plein cœur du noyau villageois. Et on le sait, puis je vous invite, puis j'invite les citoyens à aller voir la décision de la Cour suprême du Canada dans le dossier Châteauguay, ville de Châteauguay contre Rogers, où la Cour suprême a donné raison à Rogers, même si la ville de Châteauguay s'est opposée à l'époque à l'implantation d'une tour. La Cour suprême a décidé que c'était pleinement les compétences fédérales puis que la municipalité avait rien à dire dans l'endroit où la tour s'installe. Et donc, ça nous a amené à ce moment-là à s'impliquer dans le dossier et à dire à Rogers, ça n'a pas de sens, vous ne pouvez pas mettre ça dans la pinette, en plein cœur du néo-villageois. Nous, on est prêts à vous soumettre un endroit qui, présentement, effectivement, il n'y a pas de construction qui était en cours à ce moment-là, en 2022. Puis, c'est quand même à 300 mètres de la dernière ou de la première construction du développement en question, 300 mètres plus au nord, donc quand même relativement loin du quartier résidentiel. Et ce faisant, on a signé une entente avec eux autres. On lui dit, OK, nous, honnêtement, on pensait qu'ils feraient ça dans les mois qui suivraient. Bien honnêtement, mais ça s'est avéré qu'ils ont prolongé le délai de construction. Et là, ils ont décidé, vendredi, à notre grande surprise, de commencer les travaux. Alors, effectivement, on n'a pas trouvé ça très drôle parce qu'on avait demandé à les rencontrer, c'était au début de la pétition, puis à jaser avec eux autres pour voir est-ce qu'on ne peut pas regarder un autre site. Rendu là, nous, notre position au niveau du conseil municipal, c'est de dire on a une entente de signer avec eux autres. De 2022, elle est toujours valide. Ils ont été chercher les approbations au niveau du fédéral. Ils ont respecté l'obligation de consulter. Puis il faut faire attention, là, juste en tête sur la consultation. Ils ont l'obligation de consulter dans un rayon de trois fois la hauteur de la tour, donc environ 150 mètres. Donc, tous les gens du quartier, parce que la pétition, c'est ça qu'elle demande, elle demande de faire à nouveau une consultation de Rogers. Mais Rogers ne les consultera pas, même s'il en ferait une deuxième, une troisième, parce que ils sont hors du rayon du 150 mètres. Ils sont à 300 mètres. Alors, la consultation ne servirait pas à grand-chose, bien honnêtement, déjà qu'elle a été validée par le fédéral. Ils ont aussi obtenu de la Commission de la protection du territoire agricole l'autorisation d'installer la tour à cet endroit-là. Et ils ont aussi obtenu l'obligation, le OK, si on peut dire comme ça, de la municipalité régionale de comté de Daudry, donc la MRC.
Est-ce que vous avez encore de l'argumentaire pour bouger d'une façon ou de l'autre?
Le conseil, on a regardé ça, puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à la cour, parce qu'il faudrait aller chercher une injonction temporaire d'urgence? On ne pense pas qu'on réussira à obtenir l'urgence dans cette situation-là. Il y a, à notre avis, oui, je comprends les citoyens qu'eux considèrent qu'il y a une urgence, mais est-ce qu'un juge dirait oui, il y a eu urgence? Pas sûr. Et quand on regarde les résultats de toutes les expropriations du fédéral et les compétences qui sont celles du fédéral, entre autres dans les communications, les chances qu'on puisse obtenir quoi que ce soit de la Cour sont pratiquement nuls, pour ne pas dire nuls. Donc, par contre, il n'y a pas juste ça qui nous dicte la suite des choses dans ce dossier-là. Il y a aussi une question d'intérêt général, d'intérêt public général. On a vécu depuis 3 ans une inondation, vous savez, débit, là, je sais plus comment il s'appelait, là, 221 mm de pluie sur la Noret, là. On a vécu du verglas, donc les fils couchés au sol, manque de communication. On a vécu une tornade pratiquement, là. C'était des vents, un chablis qu'on appelle, des vents violents qui ont fait que le système électrique est tombé un peu partout dans la municipalité. On a vécu donc 3 crises majeures dues à la météo en 3 ans. Et ce qu'on a compris, c'est que le fait d'être coupé en termes de communication pour sauver des vies, pour pouvoir intervenir, pour pouvoir informer notre population, c'est majeur. Et malheureusement, c'est une tour de télécommunication comme Rogers à cet endroit-là qui pourrait permettre éventuellement d'améliorer les communications en cas de crise. Mais ça peut être aussi en cas de soins médicaux, en cas d'accident.
Il y a vraiment un problème donc au niveau de la couverture?
Mais il y a vraiment une déficience au niveau de la couverture, puis pas juste dans le secteur Grande-Côte-Ouest, ce secteur-là, mais aussi Grande-Côte-Est. Il y a un problème de couverture, donc il y a des trous dans la communication qui fait que ça coupe, puis ça peut même raccrocher. Alors c'est difficile pour certains utilisateurs.
En conclusion, il y a vraiment pas d'autres endroits où on pourrait placer cette tour-là, entre autres, je pense au parc industriel.
Il y a déjà une tour Rogers dans le parc industriel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les tours, elles doivent se voir. Quand on installe un système de tours, lorsque les entreprises installent des systèmes de tours de télécommunication comme ça, il faut que les tours puissent se voir les unes des autres. Puis il y a des points maximum où ils peuvent être à distance l'une de l'autre.
C'était le maire de la Noret, André Villeneuve. C'est un fichu de problème parce que les gens veulent pas voir de tour dans le paysage, mais se plaignent du fait que la réception téléphonique est pas bonne. Donc, à un moment donné, il faut que tu apprennes à faire un compromis. Et justement, le maire Villeneuve disait, ça prend un point central où la tour puisse communiquer avec l'autre tour, qu'elle puisse se voir en visu, là. C'est compliqué. C'est très compliqué. Il est 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Bon, la métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est un petit peu dense ce secteur du tricentenaire, là, mais rien de bien compliqué. On traverse aisément la rivière des Prairies, Repentigny, Quarante-Est, on circule sans problème. Par contre, en direction ouest, assez dense depuis de la Rochelle, et ce jusqu'à la 640. La 341 montée de l'Épiphanie, c'est passablement lourd entre la 40 et la rivière L'Assomption. Pont Le Gardeur, assez dense. Oui, depuis Montréal, il y a un certain ralentissement, ce que je peux voir, mais on reprend de la vitesse là, sur le pont. 25 Nord maintenant du côté de Laval, un peu dense, jonction avec la 440 là, sur environ 1 km pour la suite des choses. Île-Saint-Jean, Terrebonne, Mascouche, ça se passe bien. Pont Sophie Masson, ça va bien en ce moment. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40 direction ouest, on circule sans problème en direction ouest. Assez lourd là, depuis un peu plus d'un kilomètre avant la montée des Pionniers. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, joliette.com.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte poigne, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Le Théâtre de l'œil ouvert présente L'Effet Lisa, un théâtre musical original inspiré de l'œuvre de Richard Desjardins. Jenny, le bum, le bon gars, la femme de ménage, l'enraciné du Boomtown Café et l'homme du camp prennent vie en plein cœur d'un feu de forêt, sous le regard tendre et brûlant de Lisa, la lune. D'où vient le tison qui a tout allumé? L'Effet Lisa, dès le 10 juillet au Centre culturel Desjardins à Joliette. Billets en vente, lesfaitlisa.ca.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Mettez-nous au défi, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Rogue S 2026 à traction intégrale en location 60 mois à partir de seulement $99 plus taxes par semaine sans aucun comptant initial chez Joliette Nissan.
L'actualité de ce lundi 25 mai en manchette. Le coût de la vie, Christine Fréchette, y va de trois mesures. Une observatrice est nommée à la MRC de Joliette et 27 millions de dollars pour le nouveau centre d'amitié autochtone. Tout d'abord, Pierre Jubainville, Christine Fréchette qui tente de justifier les dépassements de coûts.
Oui, elle met en place une stratégie, Claude, déjà bien connue pour gagner des votes, notamment l'abolition de la TVQ sur une multitude de nouveaux produits. Comme va nous l'expliquer Philippe Bonneville, la première ministre assure avoir la marge de manœuvre financière.
À partir de la mi-juillet, Québec ne taxera plus des produits comme le papier hygiénique, les barres tendres, ainsi que les fruits et légumes déjà coupés. Une économie d'environ 50 $ par année par ménage, affirme Christine Fréchette.
On doit donner de l'oxygène aux Québécois.
Mais la première ministre va plus loin. Elle enverra bientôt un chèque spécial allant jusqu'à 200 $ à tous ceux qui reçoivent déjà le crédit d'impôt pour solidarité. Les frais d'immatriculation coûteront aussi 50 $ de moins pour tous les particuliers.
Il y a eu des rentrées d'argent additionnelles, ce qui nous a donné une marge de manœuvre additionnelle.
Le ministre des Finances, Éric Girard, dit être pleinement d'accord avec ces dépenses supplémentaires qui dépassent pourtant le montant qu'il avait alloué.
C'est vraiment là un petit montant qu'on absorbe aisément.
Philippe Bonneville pour Cogeco Nouvelles.
On aura d'ailleurs l'occasion de revenir sur le sujet tout à l'heure avec Pierre Paquette. On va se poser la question, le Québec a-t-il les moyens des ambitions de Christine Fréchette? Et Pierre, une observatrice va examiner le fonctionnement de la MRC de Joliette.
Oui, Québec a répondu à la demande du conseil municipal de Saint-Thomas et nomme une observatrice qui devra rendre des comptes sur la gestion de la MRC. Rappelons que les élus de Saint-Thomas accusent la gouvernance de la MRC d'être centralisatrice et de manquer de transparence. On écoute le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulain.
Nous avons nommé une observatrice indépendante au cours des derniers jours, dont son travail est effectivement de se prévaloir de toutes les informations nécessaires pour bien comprendre et bien saisir les enjeux. Je suis préoccupé, le député de Joliette est préoccupé et nous laissons l'observatrice indépendante faire son travail.
Le nouveau centre d'amitié autochtone se rapproche de son ouverture.
Oui, les gouvernements supérieurs, le CIS-Lanaudière, le monde municipal et des dizaines de mécènes de divers milieux contribuent au financement du nouveau complexe qui est évalué quand même à 27 millions de dollars. François Morin a assisté à un point de presse sur le sujet ce matin.
Le projet est en gestation depuis plus d'une décennie et il est accueilli avec joie par la directrice générale des centres d'amitié autochtone du Québec, Tania Sirois. Elle le qualifie d'espace d'ouverture et de rapprochement.
C'est-à-dire à lutter contre le racisme, la discrimination entre les communautés et à favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre populations autochtones et allochtones.
À compter de janvier, le nouveau CAAL accueillera notamment une clinique médicale, des logements transitoires et des services à la jeunesse, dont un CPE. La main-d'œuvre sera au rendez-vous, selon la directrice générale Jennifer Brazeau.
Oui, on est quand même assez choyé du fait qu'il y a beaucoup de simple monde qui veut travailler au centre. Alors, c'est sûr qu'on continue à grandir, puis il va y avoir d'autres opportunités de travailler avec nous.
Le maire de Saint-Charles-Borromée, Alexis Nantel, y voit là un bel outil favorisant la réconciliation.
J'espère que les Charlois vont se rendre, vont aller visiter, vont aller comprendre, vont aller parler avec la communauté, puis ça ne peut faire que plus de bien.
François Morin, CFNJ Nouvelles.
Bon, le Centre d'amitié autochtone, ça va bien, mais dans un autre dossier, Pierre, le chantier de la Maison des aînés qui avance moins rapidement, lui.
Oui, qui est situé d'ailleurs à côté. Le chantier de la maison à Saint-Charles-Borromée est toujours paralysé en raison d'un incendie qui s'est produit le 27 mars. On a appris d'un membre de la direction du CIS que les ingénieurs affectés à l'inspection de la structure n'ont pas encore produit leur rapport. Par ailleurs, la SQ n'a toujours pas procédé à des arrestations dans ce domaine.
Un Québécois sur deux éprouve des difficultés en français.
52% de la population, selon un rapport de la Fondation pour l'analphabétisation, ces difficultés compliquent les démarches des travailleurs qui veulent se requalifier dans un autre emploi. On va écouter l'économiste Pierre Langlois qui a élaboré ce rapport.
C'est l'une des raisons, parce qu'ils vont avoir des difficultés à comprendre un langage d'enseignement qui est plus technique. Admettons que je vais suivre une formation en automatisation. Si j'ai de la misère à suivre le vocabulaire qui m'est présenté parce qu'il est complexe, il est technique, mais évidemment, l'espérance de réussite de la dite formation, elle est réduite.
Et finalement, ce soir, troisième match de la série canadienne Hurricanes qui ébranle les cœurs.
C'est dur pour le cœur, semble-t-il, le cœur des partisans. Les séries du Canadien vident peut-être l'eau de certaines urgences le soir de match, comme ce soir. Mais c'est tout le contraire à l'Institut de cardio de Montréal. Lors des deux premiers tours de série, les urgences ont reçu environ 20% de plus de patients. La docteure Julie Sirois est chef du département de médecine d'urgence à l'Institut de cardiologie.
Si moi, demain matin, je suis très stressée pour une raison X, j'ai aucun facteur de risque, je suis en bonne santé, il va rien se passer, là. Mais si je suis hyper tendue, diabétique, j'ai 50 ans, je suis un homme, donc là, je suis plus à risque sur un stress aigu avec une poussée d'adrénaline de déloger une plaque de cholestérol dans mes artères et de faire un infarctus.
Bon, ben, on va éviter de regarder le match ce soir.
On va écouter un téléroman.
Pierre, tes prévisions pour le match ce soir?
Ah, j'ose plus!
La semaine passée, il disait Hurricanes en 4.
En quatre.
Dans le champ complètement.
Carrément.
Merci Pierre Jumainville, 16h37.
Lanaudière PM. Lanaudière PM. Claude Fournel. CFNG. Lanaudière PM. Affaires municipales.
Le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau, est on ne peut plus fier la place Carl Tremblay au centre-ville est maintenant réalité. Il persiste et signe, il s'agira d'un investissement qui va rapporter à la ville et à la région. Régent Turgeon a rencontré le maire Sébastien Nadeau lors de l'inauguration de la place Carl Tremblay vendredi soir.
Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption, moment très attendu, inauguration officielle de la place Carl Tremblay. C'est quoi au juste la place Carl Tremblay?
Ben c'est la nouvelle place publique à l'Assomption, puis ça vient rendre hommage à un homme qui est important, je pense pour tout le Québec, mais aussi à l'Assomption. C'est un grand citoyen chez nous, toujours très impliqué avec sa famille. Donc c'est un beau moment d'émotion ce soir.
On retrouve quoi exactement la place Carl Tremblay pour les gens qui sont peut-être pas de l'Assomption?
Ça vaut vraiment le passage. C'est une place qui a été construite avec beaucoup d'humilité, à l'image de Carl, et beaucoup de subtilité. Donc, les gens qui vont venir ici vont pouvoir déambuler. Ils vont s'apercevoir que beaucoup de paroles des chansons sont gravées dans la pierre au sol. Ensuite, on érige aussi un mur hommage où les gens vont pouvoir déposer leur cravate. Donc, participer eux aussi à leur façon à cet hommage-là. Ça vient contribuer aussi à ce que leur hommage reste sur place pour toujours avec Carl Tremblay. Alors ça, c'est une des choses que les gens peuvent faire. On a une forêt aussi qu'on a plantée avec différentes espèces d'érables, dans toute la flore québécoise. Et chacun de ces arbres-là, on a titré un code-barre qui peut déclencher une chanson souvenir des Cowboys fringants. Donc, il y a 20 arbres, 20 codes-barres qui sont là, fait que ça va pas venir prolonger le moment de ça. Il va y avoir, bien sûr, la scène qui va venir animer les lieux avec des événements, avec des spectacles, tant pour la relève que les artistes bien établis. Donc, c'est le genre de choses qu'on va venir retrouver ici.
Il y a eu une réflexion derrière ça. On ne l'a pas improvisé. On a consulté les proches, on a consulté l'urbanisme, on a consulté plein de gens pour arriver à ce design-là.
En fait, le projet de la place publique est né il y a maintenant 7 ans. On avait fait l'acquisition de propriété pour ériger ce site-là. Puis les quatre premières années, on était en étude de voir, on faisait des tests, où est-ce qu'on met la scène par rapport au soleil, par rapport au vent, par rapport au son. Donc, c'est toutes des choses qu'on mesurait. Puis je me souviens qu'à quelques fois, Carl venait voir des spectacles ici. Des fois, c'était un spectacle de Marie-Annick. Des fois, c'était un spectacle de d'autres artistes qu'il aimait. Et je me souviens d'avoir discuté avec Carl. Je lui avais posé la question. Carl, toi qui fais tant de spectacles, tant de festivals, comment qu'on devrait faire les choses? Avoir des conseils vus de l'artiste. Puis Carl, il a comme participé à l'implantation de cette, puis la construction de cette place-là. Mais après ça, on a appris quelques mois plus tard, on a appris qu'il était malade. Ensuite, son décès est survenu. Et là, c'est devenu naturel que cette place-là porte son nom. Alors, c'est comme ça que c'est né ici. Maintenant, ça fait 2 ans. Ça fait bientôt 2 ans et demi que Carl est décédé. Donc, ce soir, on va immortaliser ce lieu à son nom.
C'est quand même un investissement majeur, là, et ce ne sont pas tous les contribuables de l'Assomption qui sont mis justement à contribution. Il y a eu des subventions là-dedans?
Oui, c'est majoritairement les citoyens de l'Assomption qui viennent contribuer. Je vous dirais qu'on est allé chercher environ 20% des investissements en subvention par le gouvernement québécois, le gouvernement du Québec. La table des préfets de la Naudière aussi est venue contribuer. Donc ça, c'est des gestes qui sont importants. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, construire une infrastructure, déjà de construire une place publique, a un coût important. Vous savez, ici, on a du son intégré à la place, on a du Wi-Fi intégré à la place, on a des fontaines qui sont intégrées, et tout l'eau qui va servir à l'amusement des enfants, bien, ça va tomber en premier dans les jardins d'eau qu'on appelle, puis ensuite, il y a des bassins de récupération en dessous pour arroser le reste de la place publique. Donc, l'esprit environnemental écologique de Carl est respecté. Mais c'est toutes des infrastructures qui ont un coût, mais qui, à long terme, prennent plein de sens.
Le budget initial et le budget réel au moment où on se parle, la facture?
C'est-à-dire, l'entrepreneur qui a construit le site ici avait soumissionné à 4,9 millions de mémoire et le coût des travaux avec des petits rajouts, des petits ajustements, ça a fini autour de 5,6 millions. Puis à ça s'ajoutent des frais professionnels comme les architectes et tout ça qu'il faut considérer.
La question qu'on se pose, M. Nadeau, est-ce qu'on va rentabiliser cet investissement-là à long terme?
Oh, c'est clair. Et bien, très rapidement. Vous savez, ça va être un lieu de rassemblement très important chez nous. Ça va être un lieu de fierté. Je pense que c'est un lieu que les gens vont vouloir venir voir aussi. Donc, il y aura des impacts économiques par rapport à ça. Mais c'est un lieu hommage à une personne importante. À la base, revenons-là. Puis, vous savez, un parc, une place publique, n'importe quelle infrastructure, on investit ça pour 40 ans, 50 ans. Donc, ça se rentabilise assez rapidement. Puis, je pense que la fierté des gens de l'Assomption, la fierté des gens de la Naudière, à accueillir plus de monde encore chez nous, pour rendre hommage à Carl, c'est important.
Est-ce que c'est une structure, une place publique qui va demander beaucoup d'entretien et de mise à jour?
Non, pas plus qu'un parc, je vous dirais. Pas plus que dans le fond, il y a 60% c'est végétalisé du site. Donc, ça va être de cet entretien-là normal. Ensuite de ça, ça nous a permis de construire une loge pour les artistes qu'on va recevoir, les artistes vont recevoir dignement. Il y a maintenant des toilettes publiques qui sont construites. Notre centre-ville n'avait pas de toilettes publiques. Il fallait que les gens aillent dans les commerces. Maintenant, c'est un service qui est ajouté. Donc, ça va bénéficier à notre population. Puis, la proximité du théâtre Hector Charland, juste à côté, les collaborations qu'on peut faire ensemble entre les équipes techniques dans les éléments de programmation, ça peut juste être magique.
Un fleuron lanaudois au demeurant?
Moi, je pense que c'est un fleuron québécois qui se retrouve maintenant à l'Assomption. Il y a déjà des gens de l'Europe, des gens de France qui sont venus manger à l'Assomption en se disant, mais elle est où la place publique? La place Carl Tremblay, elle n'était pas construite, maintenant elle est inaugurée. Donc, on va pouvoir les amener ici et leur faire vivre un beau moment.
Elle vaut le déplacement?
Elle vaut vraiment le déplacement. Vraiment très fière du résultat. Bravo aux équipes des professionnels qui ont travaillé là-dessus. Bravo aux équipes de la Ville pour la réalisation. Je pense que c'est un lieu qu'on va être fier pour longtemps.
Sébastien Nadeau, un gros merci.
Merci à vous.
Le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau, là, qui a de quoi être fier là, de la place Carl Tremblay qui a été inaugurée vendredi dernier. Là, c'est juste à côté du théâtre Hector Charland. Dans un instant, Pierre Paquette.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustré, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte poigne, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Besoin d'un service informatique fiable à la maison? Chez Fleet Info, nous offrons réparation, optimisation et une vaste sélection d'ordinateurs et d'accessoires, incluant nos modèles de PC gaming sur mesure. Service rapide et conseils d'experts en magasin. Fleet Info à Joliette et Berthierville.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. C'est l'événement Mettez-nous au défi et c'est également le retour du Pathfinder 2026 en concession. Profitez-en pour découvrir pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Passez en concession pour en faire l'essai ou pour voir nos différents modèles 2026. Nous vous attendons au 800 boulevard Base de Roque à Joliette. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Grosse question aujourd'hui, le Québec a-t-il les moyens des ambitions de Christine Fréchette?
Quand on est au gouvernement, c'est oui. Et puis, c'est le ministre des Finances qui, normalement, devrait être le plus discipliné. Il semblait l'être, mais il l'est beaucoup moins depuis quelques heures, depuis qu'il s'est fait probablement rappeler à l'ordre. Là. Et là, Mme Fréchette a sorti des nouveaux arguments qu'il a repris. Les faits qu'on ne s'attendait pas à ce que le détroit d'Ormuz soit fermé si longtemps, que la crise avec l'Iran dure si longtemps et que finalement, les Québécois ont besoin d'un petit lousse. Le problème, c'est que il y a dans ce qui est annoncé, il n'y a personne qui va s'en apercevoir. Au bout du compte, là, c'est une belle annonce électoraliste, mais dans les faits, ça change absolument rien à la situation financière de tous les ménages, parce qu'on parle au maximum de 45 $ par année. Alors, je pense pas que ça va faire une grosse différence pour, comme dirait Jack Layton, monsieur, madame, tout le monde.
C'est que suite à certaines annonces de Christine Fréchette en fin de semaine, le ministre des Finances, Éric Girard, y allait d'un courriel en rappelant à l'ordre, si on veut, Christine Fréchette, en lui disant que les Québécois souhaitent une première ministre responsable qui ne dépense pas à tout vent. C'est ce qu'il a dit en fin de semaine. Et puis là, aujourd'hui, en point de presse, le ministre Girard assure que le gouvernement peut se permettre de telles dépenses. Il dit quelque chose d'un côté de la bouche une journée, puis le lendemain, il dit tout son contraire. On va écouter là-dessus Éric Girard.
Les D'accord. recettes du gouvernement du Québec sont meilleures. Alors, on parle de l'impôt sur le revenu des particuliers, l'impôt des corporations, les taxes sur la consommation. Et aussi, dans l'année courante, les transferts fédéraux sont plus importants. Je rappelle que la mise à jour fédérale est venue après la publication du budget 26-27, qui était le 18 mars.
Qu'est-ce qui s'est passé entre cette déclaration en fin de semaine d'Éric Girard où là il disait à Christine Fréchette « Oh, faut faire attention, faut pas dépenser à tout vent » et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
Ben, sûrement qu'il s'est fait taper sur les doigts parce que il a changé vraiment du tout au tout en l'espace de quelques heures. Bon, on se rappelle qu'il avait mis aussi en garde François Legault sur les dépenses de la CAQ. Là, les gens s'en rappellent peut-être pas, mais en 2022, avant l'élection, François Legault avait annoncé un crédit d'impôt qui pour les familles moyennes. Là,
les chèques, donc, les fameux chèques, oui. Ouais.
Les fameux chèques, oui. Alors, plus personne s'en rappelle, mais c'est un petit peu la même méthode que reprend Christine Fréchette. Et là, ben, le ministre des Finances avait averti François Legault et avertissait au début du mois, puis au courant de la semaine dernière, la première ministre de faire attention parce que il avait prévu 250 millions, puis on est rendu à 336 millions.
Oui.
Mais bon, là, on a trouvé des nouveaux arguments, le fait que les revenus sont plus importants qu'on avait prévu. Mais en demeure pas moins que le déficit prévu est à 8,6 milliards de dollars pour cette année. Alors, dans le fond, c'est pas de l'argent qu'on a, qu'on dépense, c'est de l'argent qu'on va emprunter. Alors, c'est là où il y a un problème, c'est quand on est obligé d'emprunter pour dépenser, mais il faut s'assurer que ces dépenses-là vont donner quelque chose de structurant dans l'économie, dans la vie des Québécois, puis dans les annonces qui sont faites par Mme Fréchette, particulièrement la dernière sur la TVQ, il n'y a rien de structurant là-dedans. Les carottes coupées vont être maintenant exemptes de taxes, alors que les carottes entières, ils l'étaient déjà. Les yogourts en paquet étaient déjà exempts de TVQ. Maintenant, un yogourt individuel va l'être aussi. Alors, ce qui fait que ça paraîtra pas beaucoup. Non. Peut-être la mesure phare, ça va être le fait que le papier de toilette est maintenant plus taxé. Ça, c'était quelque chose qui m'a surpris. Je pensais que c'était déjà le cas, là, mais... donc ça, c'est éminemment politique comme d'ailleurs depuis le début, c'est ce qu'elle fait. Elle essaie de faire une annonce par jour, mais là j'ai l'impression qu'elle est rendue au bout du rouleau.
Ouais.
Et ça va commencer à paraître un peu ridicule.
Justement, tu parlais de papier de toilette, elle est au bout du rouleau. Il y a l'économiste en chef du mouvement des jardins, Jimmy Jean, qui abonde dans le même sens que la déclaration de ce week-end d'Éric Girard, qui s'inquiète de l'élimination justement de la TVQ là, sur cette série de produits d'épicerie en pharmacie. Lui, il croit qu'on y va peut-être, on beurre trop épais, là.
Ben lui, ce qui l'inquiète, c'est que d'abord, on a dépassé le 250 millions qui avait été prévu par Éric Girard pour le nouveau ou la nouvelle chef de la CAQ. Dans ce cas-ci, c'est Mme Fréchette. Donc, elle avait une marge de manœuvre de 250 millions. Elle l'a dépassé. Puis là, on n'est pas en campagne électorale. Alors, il faut s'attendre à d'autres promesses
au
cours des prochains mois. Imagine-toi que c'est en octobre. D'ici octobre, il y a de la place en masse pour annoncer de nouvelles mesures. Et donc, ce qui l'inquiète, c'est qu'au bout du compte, on se retrouve peut-être avec 500, 600, 1 milliard de surplus de dépenses. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, bon, on a déjà un déficit qui est assez important, qui s'explique, mais qui a besoin d'être résorbé avec le temps, là, ça c'est sûr.
Si on regarde ça d'un œil externe, c'est-à-dire d'un œil extérieur, en tant que citoyen, on est bien content d'avoir certains rabais là, sur certains produits, mais on le regarde autrement en se disant « ça ressemble à des mesures très électoralistes ».
Ben exactement, mais comme je te le mentionnais, je crois pas que personne va s'apercevoir au moment où est-ce qu'on va aller faire l'épicerie des changements de changements dans sa facture d'épicerie. Alors, il y a des mesures plus structurantes. Moi, je pense, par exemple, que le remboursement de la taxe dite de bienvenue, là, c'était une mesure plus structurante parce que ça aidait des couples, des jeunes,
oui,
en particulier,
à s'établir,
à accéder à la propriété.
Oui.
Ça, c'est, et on sait que accéder à la propriété, ça aide l'enrichissement des ménages. Alors ça, c'est une mesure qui était tout à fait valable. Maintenant, de réduire la TVQ sur certains produits, enfin de l'éliminer sur certains produits, moi, je suis pas sûr que ça va avoir un effet très structurant. Et donc, moi, je pense que c'est effectivement strictement électoraliste. Et elle va chercher à avoir d'autres mesures du même type. Alors, on sait déjà qu'elle va annoncer une baisse des immatriculations, des droits d'immatriculation,
oui,
d'à peu près 45 $. Alors, on est toujours d'à peu près dans les mêmes chiffres.
C'est
50-45. Donc, c'est pas avec ça qu'on va changer la situation financière des familles québécoises, mais ça fait une annonce de plus. Alors là, on est,
oui,
rendu déjà à 3-4 annonces dont certaines sont très valables. Je parlais tout à l'heure,
oui,
de la taxe de bienvenue pour une première maison en bas d'un certain seuil, mais il y en a d'autres, là, comme celle qu'on a eue aujourd'hui, qui me semble pas être vraiment autre chose que de la politique.
Pierre, on va attendre évidemment les réactions de l'opposition. Là, ça risque de réagir assez rapidement. Merci beaucoup, Pierre.
Merci, à mercredi.
Lanaudière PM, politique fédérale.
Il y a plusieurs observateurs de la scène politique canadienne qui sont fascinés par le débat qui est présentement en cours en Alberta au sujet de la souveraineté politique potentielle de l'Alberta. La stratégie adoptée par le gouvernement de Daniel Smith est de demander à la population si elle est d'accord pour qu'éventuellement la question sur la souveraineté lui soit posée. Donc, un référendum sur un éventuel référendum. Et selon notre analyste Mathieu Bélanger, la première ministre Smith n'a pas vraiment le choix de ménager la chèvre et le chou dans ce dossier-là. Et François Morin lui a parlé.
La question qu'on demande aux gens, voulez-vous qu'on fasse quelque chose de façon beaucoup plus large? Et ça s'explique évidemment dans le contexte de, particulièrement de la politique évidemment en Alberta, de la politique interne au sein du Parti conservateur uni, où une fraction importante du parti, des membres du parti souhaitent que le parti bascule vers une approche plus indépendantiste. Mais c'est aussi en réaction à la pétition qui a été déposée par des gens avec à peu près 300 000 signatures, pas encore validées à ce stade-ci, mais présumément, donc signatures d'Albertaines, d'Albertains, qui demandent un tel référendum sur l'indépendance de leur province, et la décision particulièrement d'un tribunal qui bloque ça en disant, ben il faut d'abord, avant même qu'il y ait une telle pétition, il faut qu'il y ait les Autochtones qui soient consultés, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Et donc, ce processus-là ne peut pas aller de l'avant dans le cadre constitutionnel actuel. Et c'est ça l'élément ici, dans la question qui est proposée par le gouvernement albertain, à savoir, est-ce que, donc ce qui va être demandé dans le référendum de cet automne, est-ce que l'Alberta doit rester une province au sein du Canada, ou est-ce que le gouvernement doit mettre en place la procédure juridique prévue par la Constitution canadienne afin de tenir un référendum sur l'indépendance de l'Alberta, j'ai paraphrasé un petit peu, mais cet élément-là de procédure juridique fait référence à cette décision-là. Et donc, on s'imagine que c'est de consulter les Autochtones, de faire quelque chose en lien avec la loi sur la clarté référendaire qui a été adopté là à la fin des années 90 en réaction là à l'indépendantisme québécois, donc d'essayer dans le cadre constitutionnel actuel de voir comment l'Alberta peut sortir si elle le souhaitait du Canada, et même cette démarche là c'est loin d'être évident, et ça semble être une façon finalement pour le gouvernement de l'Alberta et pour Daniel Smith d'essayer de donner un peu raison à tout le monde, donc d'essayer de noyer le poisson.
Et il y a quand même un discours qui est tenu par Mme Smith, quand même assez particulier dans le contexte. C'est « Je souhaite que la province demeure au sein du Canada, mais... »
Et ça fait beaucoup penser à ce qui s'est passé au Royaume-Uni il y a quelques années avec le Brexit, lorsque le Parti conservateur, incidemment, aussi c'était le Parti conservateur, mais du Royaume-Uni, qui était officiellement pour le maintien au sein de l'Union européenne, mais qui avait tellement de pression, notamment au sein de son parti politique, pour essayer de plaire à la population. C'est le premier ministre David Cameron, si mon souvenir est bon, qui a alors organisé un référendum pour le Brexit, mais en militant contre le Brexit. Mais finalement, ça s'est retourné contre lui et le Brexit a passé. Et lui-même a dû jeter l'éponge après ça à titre de premier ministre. Donc, on est un peu dans cette logique-là. Je suis contre, mais je sens qu'il y a des gens qui veulent aller dans ce sens-là, une minorité, présumément, puis d'après les sondages, on est autour du 20-quelques % des gens qui seraient en faveur de l'indépendance de l'Alberta. Reste à voir, mais c'est sûr que ça fait une dynamique qui est excessivement différente de chez nous au Québec, où lorsqu'on a connu des référendums, ça a été porté par des gouvernements qui souhaitaient que l'option du oui passe dans les référendums sur l'indépendance du Québec, même lorsque c'était Robert Bourassa qui a de fait adopté une loi dans le contexte de l'accord du lac Meech et de son échec pour qu'il y ait un référendum sur la souveraineté du Québec, officiellement à ce moment-là du moins, ils songeaient à cette option-là, sauf s'il y avait une nouvelle entente qui arrivait, ce qui est arrivé avec l'entente de Charlottetown, et finalement ça s'est transformé en référendum sur cette entente-là, mais même à ce moment-là, Robert Bourassa disait pas « je fais un référendum pour être contre », c'était « si on va dans ce sens-là, ben je serai pour », finalement avant de changer les choses, bref, c'est inusité. Dans le contexte canadien particulièrement, c'est la première fois qu'on voit cela, mais dans un contexte mondial, comme je le disais, il y a un bon pressant avec le Brexit, avec des risques qui sont inhérents à une telle démarche, et faut espérer pour Daniel Smith qu'elle-même a bien soupesé tous les tenants et aboutissants de cela, et qu'on contrôle vraiment la situation. Ce qui n'est pas toujours évident, il faut l'avouer, lorsqu'on voit les critiques là des deux côtés par rapport à cette démarche-là, les critiques là au sein même de sa propre formation politique ou des gens qui sont en faveur du Parti conservateur uni de l'Alberta. Clairement qu'on va continuer d'entendre parler là, au courant des prochains jours, des prochaines semaines et jusqu'à cet automne.
C'était notre analyste politique Mathieu Bélanger. Il est à 16h59. C'est déjà tout pour celui qui vous parle. Ici Claude Fournel. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à François Morin, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, Pierre Paquette ainsi que Mathieu Bélanger pour leur collaboration. Nous, on sera là demain 16h pour un autre rendez-vous de Lanaudière PM. Et manquez pas dans un instant Nicolas Bellemare et le 5 à 7 trad de CFNJ. Ciao, à demain.